VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Deuxième jour de la 24e conférence de l'ONU sur le climat, la COP24 à Katowice en Pologne. L'occasion d'un appel urgent du secrétaire général de l'ONU pour limiter les effets destructeurs du changement climatique. Même si nous sommes les témoins d'impacts climatiques dévastateurs provoquant le chaos à travers le monde, nous ne faisons toujours pas assez, nous n'allons pas assez vite, a affirmé Antonio Guterres, en notant que pour beaucoup de gens, de régions et même de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. Le patron de l'ONU a souligné ce qu'il a appelé la responsabilité collective d'aider les communautés et les pays les plus vulnérables, comme les États insulaires et les pays les moins avancés, en soutenant les politiques d'adaptation et de résistance aux effets du dérèglement climatique. Mais les observateurs craignent que le contexte international, avec notamment le rejet par le président américain Donald Trump de l'accord de Paris sur le climat, et le fait qu'aucun des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre n'est représenté au plus haut niveau au sommet de Katowice, ne soit pas propice à de nouveaux engagements de la part des pays donateurs. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Au Nigeria, deux soldats ont été tués samedi soir dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Le groupe djihadiste Boko Haram a également mené un attentat suicide durant le week-end, blessant 5 miliciens. Les soldats nigériens déployés dans le nord-est, épicentre du combat anti-Boko Haram, se plaignent régulièrement de manquer d'armes et de vivres face à des insurgés nombreux et lourdement armés. Journée mondiale contre le sida. Au Burkina Faso, la maladie est sur le point d'être éradiquée, selon les autorités sanitaires qui estiment le taux de prévalence à 0,8%. Un progrès considérable dans la lutte contre la pandémie dans ce pays où ce taux se situait à 7% il y a 20 ans. Le Burkina Faso se fixe maintenant comme objectif d'atteindre la prévalence zéro. Et pour cela, l'accent a été mis cette année sur le dépistage. Les détails avec le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Au milieu des années 90, comme dans de nombreux pays africains, le sida battait son plein au Burkina. Le pays était à une séroprévalence qui dépassait les 7% de sa population. Aujourd'hui, la maladie est en voie d'être éliminée au Burkina. Nicolas Meda est le ministre de la Santé.
Aujourd'hui, après une lutte intense, nous sommes arrivés à une prévalence de VIH-sida à 0,8%. C'est-à-dire que nous avons quasiment éliminé le VIH au Burkina Faso.
Mais cette victoire apparente semble compliquer la suite de la lutte. Le sida ne semble plus préoccuper les populations qui ont, selon les constats, baissé la garde. Selon le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, 94 000 personnes vivent avec le VIH-sida au Burkina Faso et environ 10 000 ignorent encore leur statut sérologique. Le CNLS-IST appelle donc les populations à connaître leur sérologie. Docteur Didier Bakouan, secrétaire permanent du CNLS-IST.
Il y a au moins 25% des gens dans le monde qui ne connaissent pas leur statut. Au Burkina, c'est presque la même chose. Le taux est autour de 20% qui ne connaît pas son statut. La connaissance de son statut est la porte d'entrée pour une prise en charge. Quand vous ne connaissez pas votre statut, on ne peut pas vous soigner. Et à l'heure actuelle, nous disons que les traitements sont efficaces, les traitements sont accessibles, les traitements sont gratuits et les traitements permettent de vivre très bien.
AAS, Association africaine Solidarité, se bat depuis des décennies pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Elle suit près de 4 000 personnes vivant avec le VIH, dont moins de 3 000 sont sous traitement. L'association aide à dépister environ 20 000 personnes par an. Awa Kone, directrice de AAS.
Une fois qu'on est sous traitement, on réduit les risques de transmission du VIH aux autres. Que d'ici 2020, par exemple, 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida sachent la sérologie. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et puis savoir si le VIH plus vit avec le VIH ou pas. Il faut forcément un test.
Une chose est de connaître son statut sérologique, mais une autre chose est d'être accompagné. Pour les personnes déclarées positives, même si les antirétroviraux sont gratuits au Burkina, les associations et organisations de la société civile demandent à l'État de donner les moyens aux communautés d'accompagner les structures de santé pour une meilleure prise en charge. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, affrontement dans l'est du pays entre l'armée congolaise et des rebelles regroupés autour d'un ancien officier opposé au président Joseph Kabila dans la province du Sud Kivu. Les combats qui ont déjà fait 18 morts, 4 soldats et 14 rebelles continuent ce lundi dans le territoire de Fizi et ils mettent aux prises l'armée aux rebelles Yakutumba, du nom de l'ex-officier William Amoury Yakutumba, qui a pris le maquis contre le président Joseph Kabila. Ces miliciens seraient alliés, d'après l'AFP, au FNL, les rebelles du Front National de Libération du Burundi voisin. On reste en RDC. Le principal parti de l'opposition congolaise a accusé les autorités ce lundi d'entraver sa campagne dans son fief de Mbujimayi au Kasai, dans le centre du pays. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, déplore l'arrestation de plusieurs de ses militants, l'encerclement de son siège dans la nuit de dimanche à lundi par les forces de sécurité et des affiches de campagne arrachées par des adversaires. Au total, 45 militants ont été appréhendés en 48 heures selon une source à Kinshasa, proche du président et candidat de l'UDPS à la présidentielle, Félix Tshisekedi, qui est un élu de la région diamantifère de Mbujimayi, toujours au Kasai. Par ailleurs, la campagne électorale continue dans le pays à 3 semaines de la présidentielle. Félix Tshisekedi et son allié Vital Kamerhe ont tenu leur premier meeting sous la pluie. L'autre opposant de Marc, Martin Fayulu, a fait un faux départ. Et le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, était en campagne dans l'ex-Katanga minier dans le sud-est. Les détails avec Eric Maninakiza.
Le ticket d'opposant Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a lancé hier sa campagne à Kinshasa sous une pluie incessante devant quelques centaines de sympathisants dans le quartier populaire du camp Luka à Kinshasa. Monsieur Tshisekedi a montré du doigt les routes détrempées pour dénoncer le bilan du président sortant Joseph Kabila. C'était très difficile pour nous d'arriver ici, ils n'ont rien fait, la population du camp Luka est abandonnée. Nous regrettons les conditions de vie des habitants d'ici, a-t-il déclaré. Messieurs Tshisekedi et Kamerhe doivent partir demain à la conquête de l'Est à Goma dans le Nord Kivu. Dans cette campagne, des rendez-vous peuvent toujours être annulés ou reportés à la dernière minute. C'est le cas pour l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu. Il a finalement reporté à mercredi le lancement de sa campagne dans la ville de Beni, également dans le Nord Kivu, où il voulait initialement arriver hier. Monsieur Fayulu veut articuler sa campagne sur la sécurité à Beni, cible des attaques de groupes armés ADF et d'une épidémie d'Ebola. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité, a pour sa part fait campagne toute la semaine dans l'ex-Katanga minier dans le sud-est. Il a promis de mettre en prison un agent de l'État qui se livrera à la corruption durant son mandat. Au total, 21 candidats ont été retenus pour la succession du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001.
Au Burundi voisin, l'ex-président Pierre Buyoya a dénoncé hier ce qu'il a appelé une manipulation politique en réaction à un mandat d'arrêt international lancé vendredi dernier contre lui. La justice burundaise l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat le 21 octobre 1993 de Melchior Ndadaye, le premier président hutu démocratiquement élu du pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Tout laisse à penser qu'il s'agit là d'une simple manipulation politique et d'une nouvelle manœuvre de diversion pour faire oublier les questions douloureuses non résolues depuis le début de la crise en avril 2015, de la crise politique que traverse le Burundi, a déclaré Pierre Buyoya. D'après lui, Bujumbura a choisi de s'emmurer délibérément dans le refus du dialogue malgré les multiples sollicitations de la communauté internationale. Le major Buyoya a rappelé qu'un jugement avait été rendu dans cette affaire. Une dizaine de soldats ont été condamnés en 1998 dans un procès considéré comme celui des exécutants. Le plus haut gradé était lieutenant. Il a également souligné qu'un consensus avait été dégagé sur la voie à suivre pour résoudre ce qu'il a été convenu d'appeler le contentieux de sang dans le cadre de l'accord de paix d'Arusha qui avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile. 11 hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie et 5 de ses anciens collaborateurs civils sont également recherchés pour leur rôle présumé dans l'assassinat de M. Ndadaye. Ce meurtre avait été à l'origine d'une guerre civile entre 1993 et 2006. Elle a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée à des mouvements rebelles hutus.
Impasse au Sahara occidental, l'émissaire de l'ONU Horst Köhler réunit ce mercredi et jeudi à Genève en Suisse, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie pour une table ronde initiale avec l'espoir de relancer les négociations sur l'ex-colonie espagnole au point mort depuis 2012. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre dans le processus politique, souligne la lettre d'invitation adressée en octobre par Horst Köhler, qui est décidé à trouver une solution pour le dernier territoire du continent africain en attente d'un statut post-colonial. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.